qui dépasse le Congo, puisqu'il englobe les pays environnants qui ont participé aux guerres congolaises. C'est donc, on va dire, un film sur l'histoire des Grands Lacs, et principalement dans les pays étrangers qui sont intervenus, l'Ouganda et le Rwanda, qui eux sont intervenus militairement de manière très active pour massacrer et piller le pays pendant un certain temps.
Aujourd'hui, les Congolais qu'on voit dans le film, ils veulent des noms, ils veulent des coupables et ils veulent des procès.
Absolument. Mais alors, ce qui m'a surpris lors du dernier tournage, donc il y a 2 ans, c'était que tout d'un coup, la parole se libérait. On était en train de briser le silence. Jusque-là, les gens n'osaient pas dire qui avaient été les tortionnaires, qui avaient été les criminels qui avaient massacré leur famille, leurs amis, leur communauté. Et là, il y a une ouverture. J'ai pu retourner au Congo. J'étais quand même encore interdit par le régime Kabila. J'ai pu tourner librement. Et les langues s'étaient déliées. Et ça, c'est une chose extrêmement importante qui m'a permis de bien avancer sur ce film dans le but, qui est vraiment le but du film, briser la loi du silence. Alors, cette loi du silence, elle est congolaise par les gens qui sont un peu sous la coupe de ces seigneurs de guerre qui ont pris du galon et qui se retrouvent aujourd'hui généraux, ministres, enfin, dans les plus hautes fonctions de l'État congolais en toute impunité. Mais c'est aussi la loi du silence, quelque part, des médias, moins en Belgique, parce que la Belgique couvre quand même le Congo. Mais mondialement, on ne parle pas de ce qui se passe au fin fond des forêts congolaises. Et on a très peu d'images. Et la communauté internationale, elle a une mission. Les Nations Unies ont la plus importante mission de leur histoire au Congo, avec un budget annuel d'1,5 milliard depuis 20 ans, une moyenne de 20 000 hommes civils et militaires depuis 20 ans. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas là. Mais ils sont là en observateurs relativement passif. Leur mission de maintien de la paix, ben, il n'y a toujours pas la paix. Et la justice, elle ne s'en préoccupe pas. Et quand des experts des Nations Unies eux-mêmes vont commencer à faire un travail d'investigation, de recherche, de listage des massacres, on met le rapport sous le boisseau, au fin fond d'un tiroir poussiéreux.
Ce rapport mapping.
Le rapport mapping. Et on n'en parle plus. Et ça devient même un mot tabou. Ça, je l'ai vécu à New York, dans les Nations Unies. Mapping était le mot tabou. Or, ce sont des experts des Nations Unies qui ont fait ce rapport et qui parlent dans le film. Pas besoin de dire qu'ils étaient heureux de pouvoir enfin exprimer et qu'ils avaient une reconnaissance de leur travail et qu'ils pouvaient exprimer un peu leur désarroi aussi de voir que toutes les recommandations en termes de justice pour mettre fin à ces cycles, ce carrousel infernal de violence, prennent fin. Et alors, il y a quand même une voix importante qui a dénoncé cette situation, c'est celle du docteur Mukwege, et qui a objectivement bien, qui m'a poussé à faire ce film, vraiment, me disant « Thierry, on a fait un film formidable sur les victimes, qu'on a montré dans le monde entier, dans les plus grandes enceintes, on était dans 25 pays ensemble. Seul, j'étais encore dans d'autres, mais... Et on a montré le film « L'homme qui répare les femmes » aux Nations Unies, au Congrès américain, au Parlement européen, et au Conseil des droits de l'homme, et encore dans bien d'autres institutions, l'OIF et de nombreux parlements de par le monde. Mais c'était sur les victimes. Et sur les victimes, il n'y a pas de problème. Je dirais même que l'argent coule à flot. Mais il a dit, ça ne sert plus à rien. J'ai soigné des femmes victimes de viol, j'ai soigné leurs filles. Maintenant, je commence à soigner les petites filles victimes de viol, parce que cette logique infernale est devenue un cancer généralisé dans une société où il y a l'impunité, où l'état de droit se délite et où la moralité aussi se délite en même temps. Donc il faut faire un film sur les bourreaux. Et je dirais que le climax du tournage, ça a été évidemment le discours d'Oslo du docteur, où il est venu parler de ce rapport poussiéreux, d'une certaine inertie de la communauté internationale qui est trop dans le rôle d'observateur, et surtout dénoncer que les Nations Unies on fait une base de données qui liste les principaux criminels, on va dire présumés, entre parenthèses, mais les principaux criminels de l'histoire congolaise depuis 25 ans, et que cette base de données est confidentielle. Je prends toujours l'exemple, Seconde Guerre mondiale, en Ardennes, il se passe des massacres effroyables, au mépris de tout, droit de la guerre, du droit humanitaire, et on est en 65, et on nous dit, oh, non, non, les criminels, on peut tout savoir. Ce qui s'est passé, où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Modus vivendi, le nom des victimes, on a tout. Mais les criminels, désolé, c'est confidentiel. C'est insupportable. C'est inimaginable. Parce que dès qu'on saura les noms, un, la communauté internationale, que ce soit l'Europe, l'Union, le Parlement européen ou le Congrès américain, peut prendre des sanctions vis-à-vis de ces gens-là. Deux, ils seront fragilisés. Trois, je pense que quand même, la justice congolaise devra commencer des devoirs d'enquête, un peu sérieusement. Donc, on mettra fin à la répétition. Après, il faudra aller évidemment bien plus loin vers des tribunaux, hein, tribunaux mixtes au Congo, tribunaux internationaux, voilà. Et moi, là-dessus, j'ai essayé de faire un film, c'est-à-dire de raconter une histoire dans une dramaturgie la plus fluide possible, qui permet à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du Congo ou de l'Afrique de comprendre. Parce que je pense qu'on a des brides, on a des morceaux, des trucs épars, c'est comme un puzzle éclaté. Il fallait remettre les morceaux ensemble et montrer qu'il y a une logique. La logique d'un pouvoir prédateur, que ce soit de Mobutu qui doit fuir le pouvoir, de Kabila qui s'autoproclame président avant d'être assassiné, de son fils qui prend la succession comme si on était dans une monarchie, succession transitoire mais qui reste 18 ans au pouvoir et qu'il faut à nouveau des morts pour qu'ils comprennent à un moment donné qu'il est obligé de céder une parcelle du pouvoir. Mais voilà, donc j'ai essayé de raconter cette histoire des grands princes machiavéliens, shakespeariens, qui dominent ce pays, avec tous leurs hommes de main, dont on en cite quelques-uns dans le film, de tous ces généraux qui ont parfois dû massacrer 1000 personnes pour devenir 4 étoiles, qu'on voit dans le film très clairement, voilà, là on brise le silence. L'histoire de tous ces témoins que j'étais rencontrés au fin fond des forêts, et qui ont parlé avec courage, parce que c'est pas toujours évident dans la situation où ils sont de révéler ce qu'ils ont vécu et qui ont été leurs tortionnaires, et aussi de rendre hommage au pays quelque part, parce que je donne toujours sa dimension au paysage congolais, qui est un véritable, qui est sublime. Le fleuve est majestueux, c'est un paradis sur terre dont on a fait un enfer. Mais j'ai voulu quand même des transitions sur ce paysage qui doit retrouver sa fonction de paix et avec un chant congolais, je trouve très profond, un chant profond, c'est comme ça que je le dis, de cette chorale congolaise qui chante Mboka. Voilà.
Il y a ce moment absurde dans le film où un massacre a lieu, vous le disiez, les Nations Unies sont là en observateur, elles sont à quelques pas et elles n'interviennent pas. C'est incompréhensible pour le spectateur.
Ah ben c'est incompréhensible pour tout le monde. Ça fait partie. Est-ce que ce sont des dysfonctionnements? Ou est-ce que c'est une politique de dire on est là pour comptabiliser les massacres et les morts? Voilà. Mais je pense qu'il y a des soldats qui viennent de bien loin, du Pakistan, d'Amérique latine, d'autres pays d'Afrique, qui n'ont peut-être pas envie d'aller risquer leur vie pour empêcher les massacres et de s'interposer. Donc ils viennent seulement quand ils ont la garantie de ne prendre aucun risque. J'imagine que ça joue. Mais au-delà de ça, les Nations Unies sont aussi contraintes par la logique onusienne, où il faut des consensus entre tous les pays, et qui bloque souvent la décision, je peux le dire, parce qu'il m'en a parlé off record, mais le haut commissaire aux droits de l'homme, c'est quand même la plus haute personnalité, après le secrétaire général, le prince Zayed Ra'ad Al Hussein, prince jordanien, qui n'a fait qu'un mandat tellement il était écœuré. Il me dit, écoute, on fait des rapports magnifiques. Et puis il faut les présenter au Conseil de sécurité. Et 5 minutes avant, on dit non. Les Chinois et les Russes se sont opposés à ce que vous présentiez votre rapport. Voilà, ça c'est la logique onusienne. Il y a tout le temps quelque part où l'impuissance s'additionne à l'impuissance. Sauf si derrière, il y a la volonté politique. Et peut-être aussi, je crois que ça peut jouer, la diffusion médiatique, la mobilisation citoyenne des ONG, la mobilisation des gens, voilà. Mais il faut pousser, et on voit bien dans le film jusqu'où il faut aller, parce qu'il y a des gens remarquables dans les institutions. Moi, j'en vois plusieurs, mais je souligne celui de Maria Arena au niveau du Parlement européen, qui a dû à l'arraché arriver à obtenir enfin cette loi qui allait réglementer l'usage des minerais de sang par les multinationales. Elle le dit durement. Elle dit au Parlement européen, que vaut la vie d'un Congolais? On est prêt à tuer pour avoir accès aux richesses. Et alors aux États-Unis, Russ Feingold, qui est formidable, au Congrès aussi, qui demande que des sanctions soient prises sur ces grands chefs criminels qui voyagent aisément de la 5e avenue à New York, aux Champs-Élysées, à Paris et à l'avenue Louise à Bruxelles. Ils ne devraient plus avoir leur place là, pendant que les autres sont là à ne pas réussir à faire leur deuil, et à survivre dans une misère effroyable.
C'est finalement le drame de ce pays, ce sont ses richesses, c'est sa perte, ce sont ses richesses, C'est d'une tristesse quand on réfléchit.
Oui, mais ça pourrait être sa grandeur. Ce pays pourrait être un pays émergent parce qu'il a vraiment tout. La forêt, la plus grande forêt après l'Amazonie. Bientôt, ça sera la plus grande forêt avant l'Amazonie parce qu'on est en train de brûler toute l'Amazonie. Au moins, au Congo, on ne brûle pas la forêt. C'est, d'un point de vue environnemental, une richesse fabuleuse. Le plus puissant fleuve du monde après l'Amazone, qui peut donner de l'électricité par le barrage d'Inga à toute l'Afrique, si la gestion est bien faite. Et en étant l'équateur, il y a possibilité de faire 2 récoltes à l'année. Mais le problème, ça pourrit sur pied parce qu'il n'y a pas trop de convenables, il n'y a plus de voies navigables, il n'y a plus de chemin de fer parce qu'il n'y a plus de train. Donc, on ne sait pas développer l'agriculture. Et alors, la richesse ultime, fondamentale, c'est un coffre-fort des minerais les plus essentiels, évidemment cuivre, cobalt, zinc, etc., or, diamant, mais aussi des minerais rares, dont toutes les technologies de pointe occidentales ont besoin. D'ailleurs, tout le monde dans son téléphone, son laptop, sa tablette ou de sa batterie de voiture a des minerais qui viennent du Congo. Le coltan, essentiel pour la téléphonie mobile, 70% sont dans la seule province du Kivu, évidemment la province la plus ensanglantée, la plus victime de ces violences redondantes et sans fin. Donc voilà, donc là on a une implication, il faut le savoir. Alors pourquoi? Mais alors là, on vient sur l'universel. Pourquoi est-ce qu'on paye 2 dollars le creuseur qui va aller dans un souterrain qui n'est pas sécurisé, risquer sa vie pour soutirer ce coltan, que les grandes sociétés comme Apple ou Samsung ou les autres, qui permettra à ces grandes sociétés de faire des milliards de bénéfices? Ça, c'est la logique de la mondialisation qui est insupportable, qu'il faut évidemment changer. Chacun apportant sa pierre à cette volonté de changement, mais tout ça doit être dit. Et j'espère que le film peut contribuer à cet éveil des consciences, mais aussi, ça c'est pour le spectateur, on va dire, mais aussi dans les institutions, à une prise en main de la responsabilité qui est la leur pour mettre fin à ce qui est insupportable pour un peuple et un pays et pour l'Afrique.
Encore un mot, parce que vous faisiez référence à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme. Celui qui est l'ami un jour, le voisin, le confident, est une victime un jour, est un bourreau le lendemain.
C'est vrai qu'il s'est produit un phénomène paradoxal, inattendu, c'est que les Tutsis congolais ont été victimes d'un génocide atroce qui a sûrement fait 700 000 morts. Les génocidaires ont fui vers le Congo, mais les civils aussi, parce qu'ils ont eu peur de l'effet de revanche, les Hutus, ça, c'est une lutte ethnique. Donc moi je comprends la première guerre, la volonté des Rwandais et du président Kagame de dire il faut aller éradiquer ces camps qui sont des poches de résistance potentielles qui pourraient revenir faire des massacres au Rwanda. Parce que la communauté internationale n'avait pas localisé les camps assez loin des frontières. Normalement, il y a 50 kilomètres, mais là, on les avait mis à la frontière. Pourquoi? Quelle absurdité! À moins que ce soit des plans machiavéliques, hein, ce que je pense. Mais à partir de là, tout va se déliter comme un château de cartes. Les Rwandais entrent, ils exterminent, ils détruisent les camps près de la frontière, et puis ils se disent, mais on va exterminer les Hutus, et ils vont les poursuivre dans les forêts pendant des semaines et des semaines sur 2000 kilomètres. Et on va massacrer des dizaines de milliers, hein. Faut pas tourner autour du pot, hein. Jusque à 2000 kilomètres de la frontière rwandaise. Donc tout d'un coup, ils sont devenus bourreaux. C'est la revanche, c'est le mimétisme, enfin c'est les règles de... c'est étudié, hein. René Girard et d'autres ont étudié ce phénomène de la boucle infernale entre la victime et qui devient bourreau parce qu'elle peut prendre sa revanche, etc. Donc, mais on va dire qu'il y avait une logique revancharde. Mais après, les armées étrangères qui ont pris pied au Congo, surtout les Rwandais et les Ougandais, ont découvert que c'était une manne fabuleuse de minerais qui avait une valeur énorme sur le marché international, et sont restés, et ont commencé à piller, et se sont fait la guerre même entre eux. Les armées étrangères faisaient la guerre, et les bombes tombaient sur la tête des Congolais. Plusieurs milliers à Kisangani sont morts des bombes de l'affrontement entre Rwandais et Ougandais. Et puis, alors, il y a un phénomène très étrange, c'est qu'à un moment donné, il y a des groupes armés qui pullulent partout pour la survie, mais qui n'ont plus ni des raisons géopolitiques, ni des raisons de véritable prédation, mais qui est le délitement de l'état de droit. C'est une société qui n'a plus des règles, où le droit ne veut plus rien dire, bascule dans une forme d'anarchie et de violence, de barbarie aussi, hein, extrêmement importante. Et ça atteint les mentalités, ce qui se passe. Le film se termine 20 ans après les événements qui ont enclenché tout ce phénomène au Kasaï. Et là, on voit des massacres absolument atroces, mais qui n'ont plus de raison d'être. Si, peut-être, une jacquerie, voilà. Les masses populaires, abandonnées elles-mêmes, se révoltent contre l'État central, et l'État central vient avec une violence de feu et dans l'arbitraire absolu massacrer les populations civiles. Oui. Enfin, voilà, c'est là qu'on en est. Et aujourd'hui, parce que ça, c'est il y a déjà 3-4 ans, mais aujourd'hui, Nord Kivu, les massacres sont hebdomadaires. Je ne parle pas d'un massacre, hein, les massacres de masse sont hebdomadaires, malgré un état de siège. Mais un état de siège qui est fait comment? Avec des militaires qui sont sans doute sur la liste des Nations Unies comme grands criminels, mais qui ont pris du galon dans l'armée. Ça n'a aucun sens. Mais non, sortir de là, c'est un autre débat. Moi, je fais un film, je témoigne. Voilà, je fais partager l'empathie qu'on peut avoir, et pour des gens qui sont aussi des gens qui sont des héros. Je trouve dans le film qu'il y a des personnages extrêmement héroïques, bien sûr le docteur qui est au-dessus de la mêlée, qui a un charisme, un courage, malgré qu'il a été plusieurs fois, il a échappé à des tentatives d'assassinat, mais on a quand même assassiné deux de ses proches, dont son successeur, son directeur adjoint, qui devait prendre sa succession. Il est enfermé dans son hôpital comme un prisonnier gardé par les Nations Unies. Mais voilà, bon, ça c'est l'exemple, on va dire, qui donne sa dignité à l'Afrique, au Congo et à l'Afrique. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Mais après, il y a les autres qui sont dans le film. Ce directeur de la Croix-Rouge, qui n'a pas cédé aux menaces physiques, qui n'a pas cédé à la corruption quand on lui a demandé d'enlever les corps des fosses communes pour effacer toute trace des massacres. Parce que c'est ça qui se passe. On efface les traces des massacres. Moi, bon, je trouve que c'est extrêmement courageux.
Il doit être bien seul, lui, on le voit dans le film, à lutter, refuser, prenant des risques.
Oui, moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et qui assume sa parole, en sachant qu'elle est risquée. Le journaliste qui cite les gens, maintenant, il est mort. Bêtement, comme on meurt au Congo du diabète. On meurt de rien du tout au Congo. Et j'avais très peur pour lui, parce que lui, il cite vraiment ceux qu'il estime être les principaux criminels, dont le général Amissi, numéro 2 de l'armée congolaise, général 4 étoiles. Il n'y en a que deux au Congo. Hein. Il le cite frontalement. Il cite James Kabarebe, qui est l'ancien chef d'état-major rwandais et ministre de la Défense rwandais, donc il n'a pas peur de prendre des risques démesurés. Moi, j'avais peur pour lui. Et voilà qu'il meurt pour une bêtise. Mais voilà, tous ces gens qui ont parlé et qui, dans le film, et on sent bien, et puis à la fin du film, on sent la mobilisation populaire. C'est vrai que c'est le docteur qui l'a impulsé, mais des mouvements de jeunes, des mouvements citoyens se sont fédérés. Au Kasaï, on voit comment les victimes s'organisent. Les femmes, aujourd'hui, font une défense collective. Ont obligé, d'ailleurs, l'auditorat militaire d'engager au minimum de relever leurs témoignages, de faire quand même quelques devoirs d'enquête. Mais il faut pousser. Hein. Et elles ont fait une synergie avec les barreaux. Ce qui fait que, voilà une province où, tout d'un coup, la dynamique, on va dire, de partie civile, quoi, de s'organiser pour aller vers des procédures judiciaires, c'est mis en marche. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Parce que là, il y a du courage, là, il y a de l'audace, là, il y a une volonté populaire. Et je pense que d'autres régions vont maintenant suivre dans le même esprit. Peut-être que c'est au Kasaï qu'il y a eu cette radicalisation de la résistance, parce que je pense que les pires crimes ont été commis au Kasaï.
Le Kasaï, c'était calme pendant longtemps, non?
Oui, c'était en dehors des guerres. Voilà, là, il n'y avait pas de guerre, il n'y a jamais eu de guerre. Et malgré tout, le cancer a atteint le Kasaï, il l'a complètement déstabilisé. Hein. Ça, c'était plusieurs millions de réfugiés. Hein. C'était les morts, bon, c'est l'Église catholique. Les chiffres sont toujours très aléatoires, mais il y a des gens qui font quand même des relevés un peu sérieux. Et c'est vrai que l'Église catholique a un réseau de paroisses, de prêtres, etc., qui lui permet de faire des évaluations assez correctes. Et il parle sans doute de 5000 morts. Bon, il y a des plus grands massacres hein, dans la Première Guerre et Deuxième Guerre. Mais la manière dont ça s'est passé au Kasaï est quand même très déroutante. J'avoue qu'il y a des images qui sont peut-être un peu dures, mais les images que vous ne voyez pas sont redoutablement insupportables. Je ne les ai pas mis parce que je ne veux pas que le spectateur fuit les salles de cinéma. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu où il y a l'émotion, l'empathie et la compréhension. Et aussi, je pense que dans ce film, puisque ce film doit aboutir, j'espère, à des procédures judiciaires, à un tribunal pénal international, à des tribunaux au Congo, il fallait mettre quelques preuves à l'appui. Voilà, d'habitude, l'homme qui répare les femmes, c'était du témoignage. J'avoue que moi, j'ai plus d'émotions et j'ai eu deux traumas dans ma vie en enregistrant des témoignages que sur des images de violence. Mais bon, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais donc ici, je pense qu'il fallait quand même montrer jusqu'où ça pouvait aller.